France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagny à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Raphaël Rousseau à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un type dans le placard.
Mais qu'est-ce que vous avez toutes ce soir?
Ouvre, je sais que tu es là.
Ciel, mon mari.
Qu'est-ce que tu viens de dire, là?
Ciel, mon mari, pourquoi?
Pour rien.
Ouvre!
Bon, le placard. D'accord. Petit bonhomme.
Ah, t'es là, toi, mon mari?
Comme tu vois.
Croyez dans la brousse!
Tu as entendu ce qu'elle a dit?
Ciel, mon mari. Tu dois être content.
Toi qui disais que c'est des répliques de théâtre, hein? Alors? Tu prétends toujours que ça n'existe pas, les gens dans les placards?
Oui, mais je trouve que c'est toujours la même chose. Car je te parie qu'il va lui dire « Je sais que tu as un amant ».
Je sais que tu as un amant !
Extrait du film « C'est pas moi, c'est lui » de Pierre Richard. La surprise serait-elle dans le placard ? Et plus sérieusement, comment considérer un sujet contrariant, perturbant pour la philosophie, une sorte d'angle mort et de laisser pour compte ? Deux invités pour en parler, la philosophe Nathalie Deprat, professeure de philosophie contemporaine à l'Université de Nanterre, autrice d'un essai publié au Seuil intitulé « La surprise, crise de la pensée ». Et Valérie Zenati, écrivaine, scénariste, traductrice, qui est quant à elle l'autrice de « La surprise, une innocence ». Sens renouvelé, publié chez Autrement. Nathalie Deprat, le rapport entre philo et surprise serait-il si incongru que la philo ne puisse pas s'y intéresser?
La question, c'est qu'en fait, très souvent, on a mis en avant l'étonnement.
Qui est même le principe de base de la philo,
la philosophie, hein. Qui est vraiment le mouvement d'interrogation qui a été beaucoup évoqué par Platon et Aristote, donc vraiment à l'origine de la philosophie. Et donc l'étonnement a toujours été considéré comme l'avenue dans laquelle on devait rentrer pour justement interroger.
Mais la surprise n'est pas l'étonnement, l'étonnement n'est pas la surprise.
Voilà, et donc la surprise apparaît comme souvent confondue avec l'étonnement. Et souvent quand j'ai commencé à échanger avec des amis en leur disant j'allais travailler sur la question de la surprise, ils me disaient « Ah oui, l'étonnement ». Et je leur disais, ben non, en fait, l'idée, c'est vraiment de montrer la différence entre les deux. L'idée, c'est que vraiment, la surprise est une sorte de terrain vierge pour la philosophie.
Il n'y en a quand même pas un petit peu. Enfin, certains philosophes, ils sont
oui,
intéressés tout de même.
Après,
notamment Sartre, que vous citez, qui, au départ, aimait bien la surprise. Il l'a dit dans les mots, d'ailleurs, qu'il y avait beaucoup de surprises chez lui, mais qui ne l'a pas approfondi plus que ça.
Tout à fait. C'est intéressant de voir que c'est vraiment dans un travail autobiographique, dans les mots, que la surprise prend un sens de très merveilleux pour Sartre, et ensuite il n'en fait rien au niveau philosophique en termes de concept.
Et Husserl?
Et Husserl, pas tellement. Non, justement, on est finalement la discipline qui, moi, m'intéresse, la phénoménologie, curieusement, est assez. Enfin, la surprise est un peu une absente. Alors, il y a des auteurs comme Paul Ricoeur, qui en a beaucoup parlé, Henri Maldinet aussi, qui est un peu moins connu, mais qui en a aussi beaucoup parlé. Mais c'est vrai que quand on regarde les grandes avenues de la phénoménologie, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, finalement la surprise est très peu présente.
Bah maintenant, il y a vous. Valérie Zenati, la surprise est l'épreuve du vrai courage. Vous citez Aristote dans votre essai « La surprise ».
Oui, alors moi c'est un essai que j'ai écrit et qui est venu à moi par surprise parce qu'il s'inscrit dans une collection où le principe est de choisir un mot et de développer une réflexion une vision du monde.
Mais vous avez hésité entre
à partir de ce mot et donc je dirais que j'ai abordé la surprise avec mes outils littéraires parce que je ne suis pas philosophe ou théoricienne, mais ça reste un livre de réflexion.
Vous êtes bien l'autrice de Jacob Jacob qui a reçu le prix du Livre Inter il y a maintenant quoi, 10 ans hein.
10 ans, d'accord, c'est ça. Comme ça passe, on peut fêter l'anniversaire du prix du Livre Inter.
On va trinquer.
Ce soir. Et donc, en fait, justement, je crois que ce qui m'a attirée dans ce mot, c'est que justement, et j'ai été très heureuse de lire le livre de Nathalie Duprat, parce qu'il y a des correspondances dans, voilà, dans un cheminement avec des outils extrêmement différents. Mais c'est qu'au contraire, là où la philosophie peut-être se méfie de la surprise et ne l'a pas tant conceptualisée jusque-là, mon libraire m'a dit, quand je lui ai dit que je sortais ce livre, il m'a dit « Ah, c'est bien, parce qu'il n'y a quasiment pas de livre sur la surprise en philosophie. » C'est que, au contraire, en littérature, la surprise est au cœur même du principe littéraire, si j'ose dire. C'est-à-dire que l'écrivain et le lecteur, aux deux extrémités du livre, l'écrivain et le lecteur sont deux personnes qui cherchent la surprise. Moi, si je dis très souvent que je suis incapable d'écrire un livre en sachant d'avance où je vais aller, et ce qui va se passer, parce que sinon ça ne m'intéresse pas.
Donc vous vous laissez surprendre, en quelque
évidemment,
sorte.
Évidemment. Je guette la surprise, et je ne dis pas qu'elle arrive toujours. Quand elle n'arrive pas, c'est très mauvais signe. Pourquoi ? Parce que ça signifie qu'il n'y a rien de vivant dans le texte, que tout est programmatif.
Oui, et on est, la vie, ce n'est pas comme ça.
Et la vie n'est pas comme ça.
Tout n'est pas prévu d'avance,
voilà.
Heureusement.
Et donc, j'ai été très heureusement surprise en lisant le livre de Nathalie Duprat et en comparant un peu nos approches philosophiques et réflexives, mais en venant de la littérature, en me disant, voilà, au contraire, en littérature, dans l'écriture, c'est ça que je cherche et c'est ça que le lecteur cherche.
Et c'est un essai, Nathalie Duprat, que vous avez écrit à la première personne.
Oui, absolument. Moi, je me suis beaucoup déplacée. Enfin, au niveau de, vous savez, l'écriture philosophique, c'est une écriture extrêmement formatée, enfin avec des codes, enfin qui du coup peuvent la rendre très technique. Et je cherche désespérément, en fait, à sortir de ces cadrages-là, enfin, et à entrer dans un type d'écriture beaucoup plus spontané. Donc, en fait, il y avait une sorte de...
Vous êtes fait un peu violente,
dysomorphie. En fait, je me suis fait plaisir. En réalité, je me suis fait plaisir. Même si c'est vrai que c'était difficile, parce qu'en fait, on est tellement barricadé dans des concepts. Mais il y a l'idée vraiment de faire un pas de côté et d'entrer dans un type d'écriture qui soit beaucoup plus dans la matière littéraire, soit beaucoup plus présente. Donc je consonne complètement avec vous à ce niveau-là. Enfin,
Emmanuel, on a bien fait de vous inviter ensemble alors, hein, vraiment. Emmanuel Lévinas, c'était en 1981. Alors il n'a pas pensé la surprise, on y reviendra, mais évidemment la relation à autrui. Emmanuel Lévinas.
La relation intersubjective, la relation du moi à l'autre, est une relation non symétrique. Dans ce sens-là, je suis responsable d'autrui au-delà de ma vie, sans attendre une relation réciproque. C'est son affaire. Et c'est précisément dans cette mesure-là où je suis suggestion à autrui de manière complète. Je suis dans ce sens-là sujet. C'est même dans cette responsabilité à autrui, dans cette obligation à son égard qui ne s'interroge pas sur la réciprocité, que je suis sujet. C'est moi qui supporte tout. Je cite souvent cette phrase de Dostoïevski. Nous sommes tous responsables de tous et de tout, et moi plus que tous les autres. C'est cette responsabilité totale qui est responsable de tous les autres, même de leur responsabilité. Le moi a toujours une responsabilité de plus que tous les autres.
La relation à autrui, en fait, elle est essentielle, elle est centrale dans la surprise, Nathalie Duprat.
Oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée de voir comment, en réalité, autrui est irréductible à moi-même. Et en fait, je me représente beaucoup de choses et j'ai beaucoup d'attentes dans des rencontres. Et à chaque fois, autrui, alors, me surprend, soit me déçoit, soit au contraire me fait découvrir autre chose.
Ça peut être une source de malentendu aussi.
Alors,
hein,
ça peut créer beaucoup de problèmes, effectivement. Il y a parfois des relations qui sont extrêmement compliquées parce qu'on a des attentes, des représentations qui ne correspondent pas. Mais justement, autrui est le noyau, en fait, de la surprise, donc de la vitalité aussi de ma relation avec l'autre. Et c'est vrai que Lévinas... Il parle beaucoup de responsabilité dans ce texte, mais sa conception d'autrui est une conception tellement radicale cette idée d'altérité absolue, qu'en fait il correspond exactement à cette expérience qu'on peut faire d'un autrui qui toujours nous échappe, qu'on ne pourra jamais rejoindre, qui est une sorte de ligne de mire et qui en même temps nous fait appréhender la vitalité de ce qu'on vit.
Il faut se méfier de quelqu'un qui vous dit « je t'ai préparé une surprise ». Je pose la question à toutes les deux.
Laisse répondre.
oui et non, oui, il y a effectivement un chapitre là-dessus. Alors, c'est vrai que lorsque je commence à écrire ce livre, j'ai vraiment constaté qu'il y a des gens qui disent « ah, moi je n'aime pas les surprises » en pensant surtout à ça, cette idée qu'on va leur en faire une. Et donc, faire une surprise, c'est un peu prendre le contrôle quand même, parce que c'est une sorte de prise de pouvoir sur l'autre, alors qui peut être très, très douce et qui peut être merveilleuse, mais qui peut être aussi une déception, qui peut être même vécue comme une agression. Lorsque, effectivement, les lendemains de Noël sont remplis d'histoires où des gens sont extrêmement fâchés parce qu'ils ont reçu un cadeau qui ne leur correspond pas du tout, et c'est une très mauvaise surprise. Lorsqu'on dit à quelqu'un « je t'ai fait une surprise », on prend le contrôle, on le place dans une situation d'attente, une forme de vulnérabilité, parce que on le place en situation d'attente, mais il sait aussi qu'on attend de lui une réaction. Là, on est vraiment dans le relationnel, c'est-à-dire, imaginez, vous faites une surprise à quelqu'un et il ne réagit pas, ça aussi, ça peut être vécu comme une agression. Et donc, ça peut être quelque chose de merveilleux lorsque la personne qui fait la surprise et celle qui la reçoit sont dans une harmonie et sont sur la même longueur d'onde, et dans ce cas, c'est très très beau. Mais ça peut être aussi un moment violent, quand ça dévoile, parce que la surprise, c'est quelque chose qui dévoile toujours un aspect inconnu jusque-là, ou même un cadeau, il est enveloppé, on va dévoiler le cadeau. Ça peut aussi dévoiler un malentendu, une méconnaissance, un sous-entendu, et là, c'est source de problème.
C'est un moment de vérité, en quelque sorte, Nathalie Dupras ?
Oui, moi, je trouve qu'on est vraiment rarement dans l'harmonie, en fait.
Ça existe, mais c'est
des moments rarissimes, en fait. La plupart du temps, c'est quand même plutôt des sortes de... Il y a de la méprise, effectivement, vous disiez, l'autre peut se sentir vraiment pris au piège. Pour revenir à Lévinas, il peut se sentir otage de quelque chose qu'on veut lui imposer et dans lequel il va pas forcément envie de rentrer. Donc moi, je trouve que dans la dimension de la relation à autrui, la surprise est rarement quelque chose de... Enfin, c'est rarement de l'harmonie, en fait.
Alors, moi, il me semble qu'elle peut l'être tout de même, ouais. Parce que je pense qu'en fait, tout dépend de la façon dont on a pu être accompagné dans les surprises qu'on avait eues enfant, parce que je relis quand même beaucoup
les enfants aiment les surprises
à l'enfance. Alors, ils aiment jouer avec la surprise, hein. Ça c'est il y a vraiment toutes ces étapes très importantes où je sais pas, quand les enfants ont un an, on se cache, on disparaît, on réapparaît. Bon, les psychanalystes ont longuement écrit là-dessus, mais c'est un jeu avec la surprise. Lorsqu'on lit des histoires, c'est aussi les histoires qui sont souvent au passé simple, hein, qui est vraiment ce temps de la surprise. Les histoires, c'est un moment que les enfants aiment, et puis ils jouent et ils jouent et il rejoue cet état où soudain quelque chose se passe. Moi, j'ai le sentiment que ça peut être quand même une très belle chose et très bien vécue, mais encore une fois, encore faut-il que les surprises n'aient pas placé la personne dans un état de vulnérabilité trop grand, sans doute, et que la personne qui l'a fait est animée de bonnes intentions et d'une bonne intuition. Parce que la surprise étant ayant cette relation avec le temps soudain, à avoir aussi, selon moi, avec l'intuition. Donc la surprise, ça peut être la bonne intuition que l'autre a eue. Il a deviné, même si nous-mêmes nous l'ignorions, qu'on avait précisément envie de ça.
On est au paradis avec vous là. Mais ça demande quand même une certaine, Nathalie Dubrassard, ça demande quand même une certaine souplesse mentale, parce que il faut accepter que ça redéfinisse nos contours.
Absolument.
Hein.
Faut vraiment accepter de se laisser ouvrir.
Moi, c'est ce que j'ai retenu de votre livre, parce que je vous dirais que je n'aime pas tellement les surprises. Et je me suis dit, oulala, je suis peut-être un peu psychorigine.
ça suppose quelque chose comme une sorte de lâcher prise, enfin, pour utiliser un mot un peu à la mode, mais ça suppose beaucoup d'ouverture. En fait, c'est aussi quelque chose qu'on peut cultiver. Vous avez à la fin du livre les 10 commandements
de l'exercice.
De la surprise.
Avec les dessins à l'appui.
S'exercer à être, à s'ouvrir à la surprise, en fait.
Oui,
c'est,
tout à fait.
En fait, c'est vraiment un exercice. Et c'est quelque chose qu'on peut cultiver. C'est vrai que spontanément, on va plutôt voir la surprise comme quelque chose qui va nous faire sursauter, donc qui va être une
comme une irruption qu'on n'a pas choisie,
qui va nous prendre un peu au dépourvu. Enfin, alors que si on la cultive, si on s'exerce, comme vous le montrez dans ces exercices pratiques, du coup, on a vraiment quelque chose qui nous, enfin, que je, moi aussi, je développe. En fait, il y a tellement de consonances entre nos livres, c'est juste hallucinant.
Oui.
Et pour revenir sur ce que vous disiez plus positivement, c'est vrai que je pense que vous distinguez aussi la surprise de l'amour et la surprise de l'amitié.
Oui.
Et ça m'intéresserait d'ailleurs de savoir un peu comment vous distinguez les deux. Enfin, mais en tout cas, dans les deux cas, il y a bien l'idée d'une consonance. L'amour comme surprise, enfin Marivaux, la surprise de l'amour.
Ça vous ennuie pas? Un peu de suspense? On s'arrête un peu,
un
puis
peu
comme ça Valérie vous répondra après.
Oui,
Nathalie Deprat et Valérie Zenati, vous êtes nos invités donc pour parler de la surprise. Nathalie Deprat, vous publiez La surprise, crise dans la pensée, c'est au seuil. Valérie Zenati, vous publiez La surprise, une innocence renouvelée, c'est chez Autrement. Bobby McFerrin sur France Inter, Don't Worry, Be Happy, voilà qui est sage.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Alors, revenons donc sur ce sujet. Je ne sais pas si on va avoir assez d'une demi-heure pour en parler. Sur l'amour. L'amour est-il une surprise? L'amitié est-elle une surprise, Valérie Zenati?
Oui, bien sûr, parce que comme le disait Nathalie Deprat, c'est la surprise est relationnelle. Et pour ma part, elle est vraiment pas une relationnelle uniquement dans le sens humain, mais tout ce qui est en dehors de nous et qui nous pénètre. Donc c'est la nature, c'est l'art, c'est la musique.
Bah, vous parlez de tout ça aussi.
Et
hein,
bien sûr. Oui.
On est tellement en consonance.
Oui.
Enfin, en réalité.
Oui, je crois que les auditeurs qui liront les deux livres se demanderont comment on a réussi à écrire les deux facettes d'une même réflexion avec, encore une fois, nos outils personnels. Concernant la surprise de l'amour, bon, c'est la surprise de la rencontre dans la plus belle altérité qui puisse exister, tout comme la rencontre avec la haine et la plus effroyable qui existe. C'est-à-dire qu'on a ces deux extrémités. La surprise, moi, m'intéresse et m'a intéressée parce qu'elle contient autant de charges positives que négatives. Et donc, la surprise de l'amour va transformer le monde et l'illuminer. La surprise de la haine va l'assombrir et le détruire. Et dans cette rencontre avec un autre que soi, qui peut être soit bienfaiteur, soit destructeur. Mmh. Après avoir écrit le chapitre sur l'amour, j'ai écrit le chapitre sur l'amitié parce que je restais dans cette idée de rencontre. Et j'ajouterais, puisque vous disiez effectivement dans le livre de Nathalie Deprat, on voit bien que la surprise redéfinit nos contours. Moi, je suis allée aussi vers la littérature pour chercher mes exemples. Et donc, Kafka, dans les conversations avec Gustave Janouch, dit « Contrairement à ce qu'on croit, nous ne grandissons pas de bas en haut, mais de l'intérieur vers l'extérieur. » Et cette phrase que j'ai lue 50 fois, je l'ai comprise en écrivant ce livre, en disant voilà, la surprise, c'est ce qui, à chaque moment, et vous le dites aussi, nous transforme,
la métamorphose.
C'est la métamorphose. Ah oui. Nous transforme, nous métamorphose et ajoute une dimension et nous fait grandir de l'intérieur vers l'extérieur.
Est-ce qu'on peut, Nathalie Deprat, anticiper la surprise?
C'est une grande question, parce que c'est vrai que très souvent, comme vous le dites très bien, Valérie, la surprise, c'est ce qui est inattendu. Donc on a l'impression que, non, justement, enfin, il ne peut pas y avoir d'anticipation. Parce que s'il y a une anticipation, on va vers quelque chose de, comme une programmation, et donc on fait disparaître la surprise. Donc il y a une sorte de paradoxe qui est un peu ce que je travaille, en fait, c'est un peu la ligne de force de tout l'ouvrage, de montrer que si justement il y a une structure d'anticipation, et que quand on a une surprise, il y a quelque chose qui évidemment fait rupture, mais ce qui fait rupture, c'est le contenu de la surprise, c'est la... voilà, sa singularité. Enfin, alors qu'en réalité, là, il y a une structure d'attente qui fait que, en fait, je suis déjà prête implicitement à accueillir plein de choses. Et c'est ça l'anticipation, en fait. Donc, c'est pas la programmation, mais c'est le fait d'être en attente, donc d'être dans ce qu'on nommait aussi une ouverture.
L'attente d'un mocha.
L'attente d'un mocha,
puisque vous le donnez dans un ouvrage qui est quand même qui est assez enfin qui vole assez haut,
assez perché,
et tout à coup vous parlez d'un mocha.
Oui,
j'ai trouvé ça génial.
Le mocha qui est un exemple extrêmement intéressant parce qu'on peut même le reprendre scientifiquement à travers des travaux en physiologie qui distinguent le plaisir anticipatoire et le plaisir consommatoire. Ça a été très bien montré dans pas mal de travaux en sciences et on comprend très bien en fait ce que c'est. Plaisir anticipatoire, c'est-à-dire je vois un mocha dans une boulangerie derrière la vitre et je me dis, je me réjouis de manger ce mocha, j'ai presque déjà le goût dans la bouche, enfin avant même de le manger. Et ensuite, il y a ce plaisir consommatoire, alors qui peut effectivement s'enchaîner directement et à ce moment-là, il y a une surprise qui est la surprise du plaisir, parce qu'en fait le plaisir, il est quand même... il est quand même toujours nouveau. Mais il peut y avoir aussi la surprise d'un goût qui va devenir assez vite, qui va me dégoûter. Enfin, et donc, du coup, il y a cette valeur positive, négative. Et en fait, la surprise, elle est les deux, quoi. Elle est à la fois positive et négative. Mais il y a cette structure d'attente.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Valérie?
Est-ce
que c'est indiscret si je vous demande, quelle a été votre dernière surprise, bonne ou mauvaise?
Alors moi, la dernière surprise a été relationnelle, celle d'une rencontre. Je vais essayer d'être brève, mais c'était si beau. Mon coiffeur a quitté Paris il y a quelques mois et je n'avais plus de coiffeur. Et c'était quand même un petit drame, on va dire, un tout petit drame.
Et moi, j'adore entendre Valérie Zanetti dire ça, qu'on a vu dans plusieurs émissions, sur les plateaux de télé, parler de la guerre entre Israël et la Palestine. C'est pour et ça tout à coup, vous nous parlez de votre coiffeur. J'adore.
C'est pour ça que je parle de tout petit drame et avec quand même un petit peu d'humour et d'ironie. Et puis, on est malgré tout dans une semaine de très léger soulagement, mais je prends ce soulagement aussi de souffrances qui ont cessé un peu de s'ajouter aux souffrances. Ouais. Et donc, je peux me permettre de raconter cette histoire. Parce que si je me lançais dans la géopolitique et les surprises de la géopolitique, ou même de la politique tout court, on ferait une émission de 2 heures. Et donc, bon, c'est avec légèreté que je parle de ce tout petit drame de ne plus avoir de coiffeur. Je suis entrée par hasard, parce que la surprise a aussi quelque chose à voir avec le hasard ou le sentiment du hasard, chez un coiffeur. Et là, me prend en charge une femme avec laquelle je me sens immédiatement en confiance. Et bref, je lui parle du livre parce qu'elle avait reconnu mon nom, quelque chose comme ça.
Votre nom, votre visage aussi, qu'on voit beaucoup, souvent.
Et quand je lui parle de la surprise, elle me raconte, ça l'anime, comme très souvent d'ailleurs les gens, suppose que Nathalie Depras aussi a vécu ça, les gens sont animés dès qu'on entre dans le sujet de la surprise, et elle me raconte quelque chose qui lui est arrivé, et qui est présent dans mon livre, que je raconte, mais vécu par d'autres personnes. Donc ça, c'était une première surprise, une première coïncidence, et là, elle me dit qu'elle aime beaucoup lire, et on commence à discuter littérature, elle me parle de certains livres qu'elle n'aime pas, et je lui dis, mais vous lisez quoi en ce moment? Et là, elle me dit Ulysse de Joyce. Et moi, je n'ai toujours pas lu Ulysse, parce que je fais partie des gens qui, pour l'instant, n'ont pas réussi à lire Ulysse. Et elle a commencé à m'en parler comme personne, jusqu'à présent, m'a parlé d'Ulysse. Avec une telle vivacité, une telle sensibilité, j'ai senti que j'avais non seulement rencontré certainement la personne qui va devenir la personne qui me coiffe, mais aussi une amie de lecture. Et ça, c'était une sorte de coïncidence merveilleuse.
Ah bah oui, c'est
donc
merveilleux.
La surprise de la rencontre.
Nathalie Depras, pour ce qui vous concerne.
Alors moi, en fait, quand vous m'avez posé la question avant, parce que vous avez créé une structure d'attente.
Mais vous m'avez pas dit de quoi vous alliez parler.
Non, justement. Donc je vous ai laissé la surprise. Mais vous avez créé la structure d'attente, justement, de ce que. Et alors, ce qui a été terrible, parce qu'en fait, quand vous m'avez posé la question, je me suis dit, mais bon sang, je ne sais pas. Je ne sais pas. Enfin, en fait, plein de choses défilaient dans mon esprit et je me disais non, ça non, non, ça non, non, ça non. Et donc, du coup, vous voyez, il y a cette sorte de trouble, de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je vais dire? Donc là, j'étais vraiment en situation de surprise, au sens presque d'une sidération, de me dire, mais de quoi vais-je parler? Enfin, qu'est-ce que je peux dire? Il y a trop de choses et pas assez, il n'y a rien. Donc, ce qui m'est venu, donc j'ai deux exemples qui sont arrivés. Un exemple très, très douloureux qui est lié à la mort d'un ami très cher et qui a été très brutal et qui donc nous a tous sidérés. Donc, ça a été un moment vraiment où on est encore dans ce processus. Donc, il y a l'après-coup dont vous parlez aussi qui dure. Donc, c'est toute une dynamique, en fait, qui se met en place. Et puis, ce qui m'est venu ensuite, je me suis dit non, je ne vais pas prendre ce genre d'exemple, c'est trop, trop, trop lourd. Il m'est venu un exemple beaucoup plus quotidien qui est en fait ce que j'appellerais des micro-surprises. C'est-à-dire en fait quelque chose que je vis chaque fois que je vais à l'université. Je prends le train et je passe à Nanterre, et je passe par la Seine, je traverse la Seine au niveau d'Asnières et je vois la Défense. Et je vois un paysage qui à chaque fois est différent. À chaque fois avec des couleurs, des lumières, et donc pour moi à chaque fois c'est la surprise. Je sais que ça va être comme ça. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette structure d'attente. Et en même temps, à chaque fois que je le découvre, je vois quelque chose.
Il est différent.
L'émerveillement.
Mais parce que la surprise nous rappelle à la singularité de la seconde, de l'instant, de l'événement. C'est-à-dire que même si on pense qu'on est prêt ou préparé et qu'on s'attend aux choses, il y a toujours, à la seconde où les choses arrivent, cette intensité-là du moment qui ne peut pas, même alors qu'on caresse peut-être et qu'on attend ce moment, qui n'est pas de la même teneur.
Alors, il y a quelqu'un qui va peut-être nous éclairer sur la différence, la confrontation entre la surprise et le suspense. C'est Alfred Hitchcock. C'est dans un entretien avec François Truffaut qui date de 1962.
That if you have a situation,
si vous avez une situation,
and this is what I'm saying now is not new. I've said this many times before.
Ce n'est pas nouveau, je l'ai dit souvent avant.
There might be a bomb under this table.
Il peut y avoir une bombe sous cette table.
And we are having a very innocuous conversation.
Et nous avons une conversation très anodine.
Nothing, you know.
Rien de spécial.
But suddenly, boom, this thing goes up.
Mais tout d'un coup,
the audience
boom,
are shocked.
Explosion. L'audience est choquée.
We're all injured or something.
Nous sommes tous blessés ou quelque chose.
It has been very, very dull. The scene has been very dull.
La scène est très et manque totalement d'intérêt.
Until the time jusqu'au moment the bomb goes off,
où la bombe explose.
People are shocked.
Et à ce moment-là, les gens sont choqués.
The shock will last 15 seconds.
Le choc durera 15 secondes.
And it will ease off
et ensuite,
a minute,
ça s'atténuera.
2 minutes and that's that.
2 minutes et puis c'est fini.
Now we go to the other version.
Maintenant nous allons à l'autre version.
The bomb is under the table, and the audience are shown that it is there.
Et l'audience sait que la bombe est là.
At the beginning.
Au début.
They have been told, probably by the anarchist,
ils
that it's time to go off at 1 o'clock.
Probablement par l'anarchiste que probablement ça va détonner à une heure.
There's the clock.
Il y a la montre.
And it's 1:45.
Il est 1:15.
The conversation, which was so dull,
la conversation qui était tellement anodine, maintenant devient très intéressante. Mm.
Because the audience are saying,
parce que l'audience se dit,
don't talk such frivolous things.
Ne vous racontez pas des choses tellement banales.
There's a bomb under the
il y a une
table.
Bombe en dessous de la table.
And look, it's going off at
et regardez,
one o'clock.
Ça va partir à une heure.
This we play. Instead of 15 seconds of surprise,
we can
have 15 minutes of suspense.
15 minutes de suspense.
J'adore le suspense. Non, mais c'est formidable ce qu'il dit Hitchcock. Vous allez peut-être nous avoir envie d'en faire le commentaire, Nathalie Deprat, parce que en fait là, tout change parce qu'au fond, il y a une mise en scène, non?
Absolument. Oui, on est dans un cadrage qui est en fait, en réalité, le cadrage aussi de notre vie quotidienne, parce que ça peut tout à fait se produire au quotidien. Mais là, c'est vrai que le cinéma est particulièrement, enfin, est un art, je trouve, qui est fondé en permanence sur les effets de surprise. Et Hitchcock déploie bien cette séquence où le suspense, je vais dire, où le suspense est lié au fait qu'il y a une triangulation, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a un public qui voit des choses que les personnages ne voient pas. Et nous, on est le public en abîme. Enfin, donc en réalité, on a ce cadrage qui démultiplie complètement les plans et qui fait que chacun va vivre finalement cet événement à un rythme différent. Soit en pouvant l'anticiper, donc en étant dans une sorte de tension, soit en étant, et donc, en étant capté, soit en étant ouvert à ce qui va se produire, soit en étant choqué, c'est-à-dire en n'ayant pas la possibilité d'anticiper. Donc en fait, c'est intéressant parce que ça fait une sorte de variation sur les degrés possibles de préparation ou pas. Donc le scénario est absolument magistral de ce point de vue-là.
Ça doit vous plaire.
Oui, exactement. Donc je suis également scénariste et j'étais très heureuse de retrouver ce passage dans le livre de Nathalie Deprat parce que c'est vraiment la bible des scénaristes, ces entretiens Hitchcock-Truffaut et en particulier ce passage. Donc le cinéma, comme la littérature, comme les arts, joue avec la surprise. Moi j'ai écrit une série et j'ai commencé à réfléchir à un moment donné à cet engouement pour les séries et je me suis dit mais en fait comme la surprise, c'est une hypothèse, mais c'est selon moi notre état initial, premier, lorsqu'on arrive au monde, on est surpris.
Vous avez des très belles lignes sur le regard du nouveau-né.
Oui, qu'on ignorera entre guillemets à jamais, qu'on voit, mais dans lequel on n'est pas, y compris dans notre propre expérience, en tout cas pas de manière consciente. Et donc, mon hypothèse, c'est que c'est notre premier état. Et je me suis dit un jour que les gens étaient particulièrement friands de séries parce qu'il y a justement ce jeu permanent avec la surprise qui s'étire, bien bien au-delà du cinéma. Il y a des séries comme Breaking Bad qui ont 7 saisons, je crois, avec une vingtaine d'épisodes. Et on joue avec le cliffhanger donc littéralement rester accroché à la falaise. Donc tombera, tombera pas, on le saura au prochain épisode, comme je le dis. Et un jour, j'ai même compris, vous savez, la plupart du temps, les gens sont déçus par le dernier épisode d'une série. Ils sont très souvent déçus par la fin, même s'ils ont adoré la série. Ils disent « Ah, mais la fin !» Pourquoi ? Parce que je pense qu'en fait, cet état d'attente dans lequel le spectateur est, lorsqu'il regarde une série, d'attente de la surprise, s'arrête brutalement. Et la fin ne peut pas être à la hauteur du reste, puisque en réalité, la fin de la surprise, et de la surprise qui est la vie, c'est la dernière surprise, c'est la mort. Et donc la fin d'une série va laisser dans un état de frustration.
Mais c'est parce qu'il n'y a plus de... Parce que la surprise de la naissance, vous expliquez bien, Valérie Zinati, que c'est... Une présence renouvelée à soi, en quelque sorte, d'une certaine manière.
C'est
une première présence, et après on renouvelle. Sauf qu'à la surprise de la mort, on ne renouvelle rien du tout.
Mais c'est peut-être la dernière. Enfin, encore une fois, ce qui m'a frappée tout de même, en réfléchissant à cet état, je me suis dit, mais c'est une hypothèse encore une fois, je n'ai pas les moyens de démontrer. Mais je me suis dit, mais c'est peut-être notre premier état. Ça, je le sens intuitivement. Parce que, même si je ne m'en souviens pas, j'ai vécu cet état. Et moi, mon obsession, c'était de me souvenir de mon regard premier sur le monde et de mes premières perceptions. Et c'est ce qui m'a poussée vers l'écriture. Je voulais essayer d'attraper ça. Et donc, mon hypothèse que je ne peux pas vérifier, c'est que c'est peut-être notre dernier état, que la dernière surprise est la mort. En tout cas, ce que l'on sait, et la philosophie en parle beaucoup, pour le coup, Jean Tielevich a écrit un livre entier là-dessus, la mort est toujours une surprise pour les autres. Même lorsqu'on s'y attend. Et il disait lui-même qu'il y a deux miracles dans la vie, donc deux moments sur lesquels notre conscience bute, c'est la naissance et la mort. Et donc, c'est en suivant, on va dire, ce chemin-là, que j'ai mis l'hypothèse que notre vie est encadrée par deux surprises énormes dont on ne peut pas avoir conscience. L'une parce qu'on ne peut pas se souvenir, l'autre parce qu'on n'est plus là. Alors que ça vient d'avoir lieu.
La surprise est une question de vie et de mort.
Voilà, et je pense qu'entre ces deux surprises, il y a une succession de surprises, les micros, celles que moi j'appelle les petites, qui sont celles qui sont notre rapport vivant. Quand vous regardez le paysage de la Défense, vous avez un rapport vivant au paysage, et pas blasé, hein, je parle des blasés dans une certaine catégorie, et les grandes qui nous transforment, et parfois de fond en comble, et qui nous donnent le sentiment qu'on ne sait plus rien. C'est pour ça que je parle d'une innocence renouvelée.
Au sujet de la surprise dans l'art, écoutons Gilles Deleuze.
Mon Dieu, enfin le Dieu des peintres, qui l'empêche que la catastrophe prenne tout? Qu'est-ce qui se passe si la catastrophe prend tout de telle manière que rien n'en sort? Il y a à ce niveau un danger de peindre. C'est-à-dire le danger de peindre, c'est quoi? S'il affronte cette catastrophe dans l'acte de peindre, s'il ne peut pas peindre, sans. Qu'une catastrophe affecte au plus profond son acte. Mais qu'en même temps, il faut que la catastrophe soit comme quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Contrôlée. Qu'est-ce qui se passe si rien n'en sort? Si ça fait une bouillie? Oui, le tableau rate. Les peintres ne cessent pas de rater. Ils ne cessent pas de jeter leur tableau. Hein. Les peintres, c'est étonnant, quoi. Il y a une espèce de destruction, consommation du tableau. Mais est-ce qu'on peut contrôler une catastrophe, encore une fois? La folie de Van Gogh, hein. Bon, elle vient d'où? Elle vient de ses rapports avec son père ou elle vient de ses rapports avec sa couleur? J'en sais rien, en tout cas. La couleur, c'est peut-être plus intéressant. Alors, j'ai pas encore parlé des textes de peintres. Je crois que c'est pas analogue que la manière dont un peintre parle de sa peinture, c'est pas la même chose que la manière dont un musicien parle de sa musique. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. J'ai dit qu'il faut attendre un texte de peintre, des choses qui ne sont pas du tout, qui sont d'un type très particulier.
Gilles Deleuze, avec ce sentiment frissonnant de joie esthétique, on touche quelque chose d'essentiel, Nathalie Deprat.
Oui, je pense que ça correspond assez bien à ce que vous disiez, Valérie, aussi tout à l'heure concernant la naissance et l'ouverture du monde dont on ne se souvient pas, mais qu'on a quand même encore organiquement dans ses viscères. Et il me semble que l'art, joue aussi ce rôle de réitération en fait de cette ouverture initiale au monde qu'on a perdu, mais qu'on peut peut-être grâce à l'art reconquérir dans la mesure où ce mouvement d'ouverture, de jaillissement, de création, c'est le mouvement maximal en fait qu'on peut reconquérir, reconduire. Et je dirais qu'en science aussi, d'une certaine façon, quand on fait une découverte, alors c'est pas la création, c'est l'invention, mais le fameux Eureka, c'est aussi ce moment où tout d'un coup quelque chose s'ouvre. Et pour moi, c'est des moments qui sont des moments justement où les surprises s'enchaînent. Hein. Effectivement, il y a une sorte, comme vous disiez, de vitalité en fait qui se déploie et qu'on peut retrouver, enfin qu'on peut recréer d'une certaine façon. Donc oui, je pense que l'art, comme la science, comme la découverte scientifique, conjugue en fait cette ouverture.
À condition d'accepter de se confronter à l'effroi du beau.
Oui, aussi. C'est-à-dire que quand vous citiez au début, voilà, Aristote, la surprise est l'épreuve du vrai courage. On le voit aussi dans le livre de Nathalie Deprat. Il y a dans la disponibilité à la surprise, il y a peut-être, il faut avoir une forme d'audace ou il faut faire taire ses craintes. Mais moi, j'aurais envie de dire autre chose parce qu'il y a un mot qui a tilté quand vous avez parlé de l'art et de quelque chose d'essentiel, enfin de la surprise qui est essentielle. Et donc, ça s'est relié à une période qui, selon moi, là aussi, c'est une hypothèse, a peut-être été le terreau de la naissance de ces deux livres. C'est celle du confinement, de la pandémie. Parce que c'est à la fin de votre livre. Vous parlez de la pandémie. Alors, moi, j'en parle en une phrase dans La Surprise, mais dans mon précédent roman, dans Qui vive, c'était le point de départ des interrogations de mon héroïne. Et pour moi, La Surprise se relie à Qui vive. C'est une autre facette de ce qui m'a préoccupée à partir de 2020. Et je l'ai senti dans votre livre aussi. Ouais. C'est-à-dire que cette période que vous définissez de temps sans temps, où on a été plongé dans... D'abord, on est allé de surprise en surprise, et ensuite on a plongé dans une forme de sidération, de calme qui n'avait jamais existé, de lenteur, où, et c'est pour ça que j'y pense maintenant, où on a tout à coup scindé en deux l'essentiel et le non-essentiel. Et le non-essentiel, c'était tout à coup les relations humaines,
mais
le cinéma,
le temps se scinde, hein, ça vous le dites toutes les deux. Quand,
la surprise fend le temps en deux, la grande surprise. Pas les petites. Et c'est peut-être quelque chose... Voilà, dans la définition des petites et des grandes, il faut aller voir du côté du temps et de la relation au temps. Les grandes surprises fendent le temps en deux. On le sait immédiatement, il y a un avant et un après. Plus rien ne sera comme avant. C'était une phrase qui était présente dans Qui vive d'ailleurs à un moment et qui a nourri aussi pour moi cette réflexion. Et moi j'étais heureuse de vous lire et je suis heureuse d'être là ce soir parce que je continue d'avoir l'impression que cette période qui a été un bouleversement planétaire, existentiel, aussi bien au niveau intime que politique, collectif, n'a pas pour l'instant donné lieu à une prise en compte, à une prise en charge suffisante, comme si on avait voulu effacer la sidération qui s'en était suivie. Parce que le danger de la surprise, c'est à la fois de rester plongé dedans, vous en parlez, c'est le trauma, d'une certaine manière. Donc on reste plongé, on n'en sort pas et on ne peut pas penser. Cet état-là empêche de penser. Mais le danger, c'est aussi de l'oublier. D'oublier ce qui nous a surpris un jour. Et là, je crois qu'on se rejoint là-dessus.
Oui, vous êtes bien sur France Inter et c'est leur philo, figurez-vous, que vous écoutez.
Ouvrons les larmes que l'on garde. Ouvrons les larmes gardées. Depuis ce matin, je regarde la rivière couler. Je sens, j'ai trouvé. Caché, je sens, j'ai trouvé. Où sont les larmes cachées? Dans l'eau noire, j'irai me baigner.
Dans l'eau noire, j'irai me baigner.
Nas águas escuras, eu mergulharei.
Nas águas escuras, eu ce matin, je regarde la
laisse couler. Je sens, j'ai trouvé. Où sont les larmes cachées? Je sens.
C'était Mira. La surprise est un état, là on l'a compris d'après ce que vous avez dit, mais c'est un état qui est quoi? Qui est seulement intime, qui est seulement singulier, qui peut aussi être politique éventuellement, Nathalie Depras?
Oui, absolument, et ça m'a frappé aussi de lire exactement cela dans le livre de Valérie Znaty qui dit « La surprise est un état aussi politique qu'intime ». Donc ce que vous évoquiez concernant la porosité entre ce que je vis personnellement et ce qui se passe au plan collectif dans le cadre de tout ce mouvement absolument bouleversant de la pandémie, il me semble que justement ça fait entrer en relation l'individuel et le collectif. Et pour cela, la surprise a une vertu incroyable de nous déstabiliser à tous les niveaux. Enfin, que ce soit sur le... Et c'est pour ça, l'intime est politique. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà entendu parce que Simone de Beauvoir, c'est aussi son mot d'ordre en fait, hein, sur un terrain qui est plus un terrain de combat contre l'oppression des femmes. Mais ce qu'elle le formule à sa manière, et je trouve que la surprise c'est un type d'expérience qui permet de dissoudre, en tout cas de remettre en question cette distinction entre ce que je vis personnellement, le privé, le public, c'est des grandes catégories en fait, et ça marche pas en fait avec la surprise, tout est très perméable en fait, il y a une sorte de continuité qui nous oblige à nous ouvrir au collectif, et on le vit dans ses tripes en fait, on vit le collectif et dans la séquence politique qu'on connaît depuis un an et demi à peu près.
Ah bon, laquelle ?
Je sais pas, celle qui est en train de se passer là. Enfin, on a l'impression d'être dans une sorte de vaste continu.
Et dans la séquence mondiale qu'on vit depuis le début du siècle même, parce que, souvent je dis que l'accélération des techniques d'information, etc., a fait que la surprise informationnelle, si j'ose dire, est devenue notre lot. On est informé à coups d'alerte, ça s'appelle des alertes sur nos téléphones, et par des choses qui avant mettaient des jours à nous parvenir. Et là, qu'on vit dans l'instant.
Mais
et
là, ce qui est aussi assez terrifiant, c'est qu'on a l'impression qu'effectivement, en plus, les médias sont friands de surprises, en fait. Oui. Mais qu'une surprise chasse l'autre.
Une surprise chasse l'autre. Et donc, même, je le dis à la toute fin du livre, ça a même été théorisé comme une arme, la surprise, par un des conseillers de Donald Trump. Parce que, il n'est même plus question de balancer, comme on dit, des fake news, mais de submerger l'espace public de déclarations et de décisions toutes plus choquantes les unes tous les autres, pour sidérer et pour ne pas laisser réagir. On ne sait plus où donner de la tête, quel combat mener. Et donc c'est vraiment aussi une arme. Bon, les attaques surprises en guerre, on sait que ce sont des armes, et en politique aussi.
Ouais,
voilà. Donc je pense que le but, c'est peut-être de revenir à la valeur positive, personnelle, intime, créatrice de la surprise, pour contrer ce qui parfois nous accable et qui entraîne ce que certains appellent la fatigue informationnelle, je crois.
Une correspondance supplémentaire entre vous deux, si vous le permettez, c'est la fin de vos livres. Parce que d'un côté, dans votre livre, Valérie Zenati, il y a des commandements avec des dessins. D'ailleurs, c'est pas vous qui dessinez comme
ces dessins. Je voulais le dire. Oui, ils sont magnifiques. Ils sont de Colette Natrella, qui avait illustré un de mes précédents livres et à qui je demandais d'illustrer ces 10 commandements. Elle l'a fait sans avoir lu le livre et elle a intuitivement trouvé des choses qui s'y relient et elle a fait magnifiquement.
Alors je vous remercie beaucoup pour le 8e commandement. Tu laisseras ta psychorigidité au vestiaire, entassée en boule avec tes certitudes et ta mauvaise foi ou soigneusement pliée si tu es maniaque.
Oui, mais je le dis avec beaucoup de tendresse.
Ah, mais je sais, mais quand même.
Je parle de ceux que j'appelle les opposants pacifistes à la surprise.
Bon, alors je me reconnaîtrai là-dedans.
Mais ils peuvent tenter l'exercice.
Bien. Et Nathalie Deprat, là, vous faites un certain nombre de propositions. À la fin. La surprise en proposition, c'est dans votre conclusion.
Tout à fait. Et il y en a 7.
Il y en a 7.
Oui, il y en a 7. C'est vraiment comme les 7 jours de la semaine, peut-être.
Enfin, j'y ai
pensé. Et vraiment pour essayer de recadrer, de redonner une sorte de dynamique et aussi permettre de sortir de dimension un petit peu trop compliquée du livre. Enfin, l'idée, c'était d'avoir une sorte de pédagogie un peu comme les commandements, mais là, sur le mode de proposition, effectivement.
Et bien montrer que la surprise métamorphose la philosophie.
Oui, ouais, et déplace, fait bouger les lignes, en fait. C'est-à-dire, met en crise aussi la philosophie, met en crise la pensée, nous oblige à nous remettre en question en permanence et effectivement à nous transformer. Donc cette idée de sidération, c'est vrai qu'elle est extrêmement importante, mais je pense qu'il y a une vertu de la surprise qui peut être remise en scène pour précisément sortir de l'état de sidération qu'on veut nous imposer. Donc du coup, il y a un travail qui peut se faire quand on reprend ça à son compte.
Et ce que j'adore, c'est que vous remerciez en plus le lecteur de vous avoir suivi tout au long du livre. Donc moi, à mon tour, de vous remercier de l'avoir écrit et d'être venu ici même en parler.
Merci à
vous. La surprise, crise dans la pensée, signée Nathalie Deprat, est aux éditions du Seuil. Valérie Zenati, La surprise, une innocence renouvelée, c'est aux éditions Autrement. Merci à toutes les deux et je pense que vous serez amenées à vous revoir.
Merci beaucoup.
Je pense, oui. Merci beaucoup.